Chapitre 8. Le sens du verbe. Prophétiser. Dans 1 Corinthiens 14. Larry L. Lichtenwalter. Pouvons-nous tous prophétiser? Le don de prophétie était très répandu à l'époque du Nouveau Testament. De nombreux textes font référence aux prophètes et aux prophéties en lien avec d'autres dons liés à la parole, ce qui montre à quel point l'activité prophétique était importante pour la mission de l'Église. C'est le seul don qui est systématiquement cité dans les listes des dons spirituels de Paul, et le plus souvent dans un contexte ecclésiologique. Manifestement, cette activité prophétique était exercée aussi par des proches des apôtres qui prêchaient, enseignaient et s'impliquaient dans l'organisation de l'Église. Le don de prophétie faisant partie des dons les plus importants, ces personnes exerçaient des fonctions essentielles et avaient une certaine autorité dans la façon dont elles expliquaient et mettaient en pratique l'Écriture. Elles avaient un mode de vie itinérant et œuvraient certainement dans les congrégations locales. Leurs dons prophétiques s'avéraient surtout utiles lors des services d'adoration. Elles étaient associées aux disciples, mais avaient un rôle différent. La nécessité de les tester ne signifie en aucun cas que leur ministère prophétique était de moindre importance. Dans le texte de 1 Corinthiens 14, cependant, Paul semble étendre le don de prophétie et dire que tous les croyants peuvent en bénéficier. Aspirez aussi aux pratiques spirituelles, surtout à celles qui consistent à parler en prophète. 1 Corinthiens 14, verset 1. Je veux bien que vous parliez tous en langue, mais je préfère encore que vous parliez en prophète. Celui qui parle en prophète est plus grand que celui qui parle en langue. Verset 5. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent. Verset 29. En effet, vous pouvez tous parler en prophète, un par un, pour que tous soient instruits et encouragés. Verset 31. Aspirez à parler en prophète. Verset 39. À première vue, ces versets semblent suggérer qu'il y aurait une sorte de don de prophétie ordinaire et congrégationaliste qui pourrait apparaître dans les églises locales, dans le contexte de l'adoration. Si tel était le cas, ces prophètes considérés comme officieux joueraient un rôle plus important dans ces églises locales que les prophètes plus reconnus que ces églises ne verraient quasiment jamais. Certains considèrent que cette position est conforme au texte de Joël 2, versets 28 à 30, et ses implications prophétiques, et que le don de prophétie est donc accessible, du moins potentiellement, à tous. Mais pouvons-nous tous prophétiser? Existe-t-il plusieurs dons de prophétie dans le Nouveau Testament, réservés aux apôtres, à leurs collaborateurs, un don de prophétie ordinaire, un don congrégationaliste? Y a-t-il des degrés dans l'expérience prophétique, dans le contenu de ce don, sa portée, sa véracité et son autorité? Qu'est-ce que le don de prophétie? Est-il bon d'y aspirer? Les chrétiens peuvent-ils l'utiliser dans leurs églises aujourd'hui sans compromettre la suprématie de l'Écriture? Le phénomène prophétique qui se produisait à Corinthe était-il authentique ou était-il déformé, ce qui pouvait provoquer des tensions? Voilà les questions difficiles auxquelles sont confrontés ceux qui lisent le texte de 1 Corinthiens 14. Les mouvements pentecôtistes et charismatiques se tournent vers ce passage pour justifier les manifestations spontanées et extatiques des croyants dont le but est d'encourager leurs semblables à faire preuve de fidélité et d'obéissance et à servir, et qui sont des prophètes autoproclamés, annonçant des événements à venir, faisant des prophéties et ayant des visions. Voici une parole de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a montré. Même certains adventistes du septième jour disent aujourd'hui « Le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit ». Que nous enseigne ce passage? Que signifie le verbe « prophétiser » utilisé dans ce texte? Les lecteurs adventistes se demanderont aussi de quelle façon l'interprétation de ce passage impacte l'approche adventiste du don de prophétie en tant que phénomène eschatologique dans l'Église du reste. Cette étude débute par une présentation du contexte dans lequel le don de prophétie de 1 Corinthiens 14 se manifeste. Ce contexte permet de comprendre les différentes nuances des mots employés dans ce chapitre. Prophète, don de prophétie et prophétiser. Il permet également de mieux appréhender le phénomène prophétique qui est un don, une activité et un rôle. Les limites du don de prophétie seront ensuite étudiées afin de cerner sa portée et ses implications. Enfin, nous comparerons plusieurs affirmations de Paul concernant le don de prophétie dans 1 Corinthiens 14 avec l'approche adventiste du don de prophétie en tant que phénomène eschatologique dans l'Église du reste. Le don des langues sera aussi évoqué. Rechercher le meilleur, le don de prophétie. Les remarques de Paul au sujet du don de prophétie ont pour cadre une discussion dont le but était de revoir l'emploi quelque peu abusif du don des langues dans l'Église de Corinthe. Dans le chapitre 12, il plaide pour une diversité des dons spirituels et déclare que le don des langues n'est que l'une des manifestations de l'Esprit. Cette diversité des dons spirituels est le reflet d'une profession de foi christologique authentique. 1 Corinthiens 12, versets 2-3. Du baptême du Saint-Esprit, verset 13, et de la dépendance mutuelle des croyants en tant que membres du même corps en Christ. Dans le chapitre 13, Paul insiste sur le fait que, quel que soit le don que l'on puisse avoir ou notre degré de spiritualité, cela ne sert à rien si nous ne faisons pas preuve d'amour. 1 Corinthiens 12, verset 31 à 14, verset 1. Ce texte présente non seulement une comparaison entre l'amour et les dons, comme le don des langues et le don de prophétie, dont il est question au chapitre 14, mais il explique ce qu'est l'amour et ce qu'il n'est pas, de façon à lutter contre un problème propre à l'Église de Corinthe. Le chapitre 14 s'inscrit dans ce large cadre théologique, en mettant l'accent sur l'intelligibilité, 1 Corinthiens 14, versets 1 à 25, et l'ordre, versets 25 à 40, qui sont nécessaires pour que la vie spirituelle, l'orientation morale et l'unité du corps puissent progresser. Les meilleurs dons dont il parle plus tôt, 1 Corinthiens 12, verset 31, sont ceux qui édifient la communauté. Paul choisit le don de prophétie pour représenter les meilleurs dons, affirmant qu'il faut aspirer à ce don plus qu'au don des langues. Il en est ainsi, car celui qui prophétise édifie, exhorte et console. 1 Corinthiens 14, verset 3. Le premier mot, édification, oikodomène, est le fil conducteur de tout le chapitre et permet de comprendre la nature du don de prophétie authentique. Le chapitre est encadré par une inclusio littéraire, les versets 1 et 39, aspirés à parler en prophète, et au milieu se trouve une comparaison sur le don des langues et le don de prophétie. « Je veux bien que vous parliez tous en langue, mais je préfère encore que vous parliez en prophète. » Verset 5. Ce contraste inattendu au sein de cette inclusio permet de définir le sens de l'expression « meilleur don » de la première exhortation, 1 Corinthiens 12, verset 31, et le comprendre précisément pourquoi le don de prophétie est considéré comme étant plus grand, à savoir qu'il édifie. Cependant, le don de prophétie n'est pas naturellement plus grand que le don des langues ou que tout autre don, puisque tous les dons viennent du Saint-Esprit et sont donnés pour le bien de tous. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Pourtant, le don de prophétie est plus grand que le don des langues, précisément parce qu'il est intelligible et qu'il peut donc édifier. Ce contexte suggère que le don de prophétie n'était peut-être pas un problème à Corinthe. Il montre aussi que ce que Paul affirme concernant le don de prophétie doit être compris à la lumière de ce qu'il déclare au sujet du don des langues et de possibles abus. Pourtant, certaines personnes considèrent malgré tout que le fait que Paul évoque uniquement deux dons spirituels, le don de prophétie et le don des langues, signifie peut-être qu'il y avait des différends, des querelles ou des doutes à ce sujet. Certaines déclarations de Paul semblent indiquer 1. Que la véracité de certaines prophéties devait être prouvée, 1 Corinthiens 14, verset 29. 2. Que certaines prophéties étaient délibérément cachées et de ce fait peut-être négligées ou perdues, verset 30. 3. Qu'il y avait des degrés dans l'expérience, la portée, la véracité et l'autorité prophétique, verset 29, 32, 36, 37, 38. 4. Que certaines personnes qui prophétisaient ne parlaient peut-être pas avec une autorité divine, verset 36. 5. Que la façon de prophétiser à Corinthe, comme le fait de parler en langue, se faisait de façon désordonnée, verset 31. 6. Qu'il y avait des prophètes timides, inexpérimentés ou en devenir dans la communauté, verset 37. Et 7. Que les prophètes de Corinthe avaient manifestement moins d'autorité que l'apôtre, verset 37 et 38. Nous montrerons cependant que ce n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, le but principal de Paul est de mettre l'accent sur l'amour, qui donne lieu à des paroles intelligibles, ordonnées et édifiantes, que ce soit en parlant en langue ou en prophétisant. Rechercher les meilleurs dons signifie donner la priorité aux dons de prophétie plutôt qu'aux dons des langues quand elles ne sont pas interprétées. Mais pourquoi le don de prophétie était-il considéré comme étant meilleur ? Était-ce ce don en lui-même ? Était-ce le fait que ce soit un don associé à une parole inspirée qui pourrait sans nul doute édifier ? Si tel était le cas, le don de prophétie aurait les caractéristiques de tous les dons spirituels associés à la parole. Le chapitre 14 comporte deux parties. 1. Une thèse de Paul en deux sous-parties et les arguments correspondants, versets 1 à 19. 2. Deux arguments des Corinthiens suivis des réponses de Paul, versets 20 à 36. Ce chapitre se termine par un résumé, versets 37 à 40. Paul présente trois arguments en faveur de l'exercice du don de prophétie en public, versets 6 à 12, et trois arguments en faveur de l'exercice du don des langues avec interprétation en public, versets 13 à 19. Ce chapitre reflète la position la plus claire et la plus détaillée de Paul sur le don de prophétie. Voici un récapitulatif de l'inclusio de ce chapitre afin de faciliter la compréhension du rôle du don de prophétie selon Paul. Aspirer au don de prophétie, verset 1, subjonctif, zelout, ina prophetreet. Le don de prophétie est supérieur au don des langues quand elles ne sont pas interprétées, verset 2 à 5. Le don des langues n'édifie pas quand elles ne sont pas interprétées, verset 6 à 19. Le don des langues ne convainc ni les incroyants, ni les croyants lorsqu'elles ne sont pas interprétées, versets 20 à 23. Le don de prophétie convaincra les incroyants et les croyants, versets 22, 24, 25. Le don de prophétie et le don des langues doivent être mis en pratique de façon ordonnée, versets 26 à 35. Le don de prophétie doit être évalué, verset 29, voir 1 Corinthiens 12, verset 10. Le don de prophétie est associé à un critère objectif, versets 36 à 38. Aspirer au don de prophétie, versets 39 et 40, infinitif, zelout to prophetein. Prophète, don de prophétie, prophétiser. Le don de prophétie est le plus mentionné de tous les charismatas du Saint-Esprit cités dans les écrits de Paul, ce qui implique qu'il était très fréquent dans les églises pauliniennes. C'est notamment le cas dans 1 Corinthiens 12 à 14. Ces trois chapitres présentent différents aspects du don de prophétie. Le don de prophétie en tant que phénomène inspiré par l'Esprit, prophétéia. Le don de prophétie en tant qu'activité inspirée par l'Esprit, prophétéuo. Et le prophète en tant que personne inspirée par l'Esprit, slash ayant un rôle inspiré par l'Esprit, prophétesse, et au prophétéon. 14 de ces 20 références se trouvent dans le seul chapitre 14. Don de prophétie, 2 fois. Prophétiser, 8 fois. Prophète, 4 fois. Environ 2 tiers des références du chapitre 14 sont des formes verbales impliquant un processus prophétique actif. Le verbe prophétiser dénote un phénomène actif, la réception et la transmission du message du Saint-Esprit qui est à l'origine de la révélation. L'activité consistant à prophétiser semble prédominer sur le don lui-même. Cette expérience directe se déroule dans un contexte communautaire, de responsabilité, de développement mutuel, d'ordre, d'adoration intelligible et de ministère en faveur d'autrui. La description métaphorique de l'Église en tant que corps du Christ en lien avec les dons spirituels montre que la relation entre les différentes parties du corps, œuvrant ensemble dans l'unité et la diversité, est le cadre privilégié pour l'exercice du don de prophétie. Le don de prophétie est un phénomène communautaire. Les prophéties doivent être partagées avec l'Église. La communauté des croyants est le contexte normal et approprié pour l'exercice de ce don de la parole inspirée par l'Esprit. Le don de prophétie doit être exercé avec discernement et bon sens par la communauté avant d'être accepté. De plus, le don de prophétie en tant que phénomène communautaire est sans nul doute un signe ou une indication de la présence et des bénédictions de Dieu dans une église. 1 Corinthiens 14, verset 22. Cela montre que Dieu est présent, quelque chose qu'une personne extérieure pourra voir. Si tous parlent en prophète et qu'il survienne un non-croyant ou un simple auditeur, il est confondu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur deviennent manifestes. Alors, tombant face contre terre, il adorera Dieu en déclarant « Dieu est réellement parmi vous » versets 24 et 25. Le renouveau moral évoqué souligne la véritable nature du don de l'Esprit dans l'Église. Le don de prophétie peut convaincre à la fois les croyants et les non-croyants. Le résultat de ce phénomène est un travail intérieur, les secrets du cœur étant révélés. Le résultat final de ce dévoilement à Dieu est la repentance et la conversion. Les images utilisées sont propres à l'Ancien Testament. Une telle confession devant Dieu est le signe que le don de prophétie est pour les croyants. C'est la preuve vivante de la présence, de l'action et des bénédictions de Dieu. En tant que manifestation verbale du Saint-Esprit, le don de prophétie était un don accordé aux individus, verset 30. Il était de nature spontanée et pertinente, versets 2, 3, 22, 24, 25, 30. Personne n'était contraint de parler contre sa volonté, versets 31 et 32a. Il permettait au prophète de découvrir la perspective divine, versets 24 et 25. Il était utile pour évangéliser, versets 24 et 25, pour construire, encourager et consoler l'Église, verset 3, et pour apprendre, verset 31. Il cesserait d'exister à la parousie, 1 Corinthiens 13, versets 8, 10. Le but principal était non pas l'avenir, mais la situation présente du peuple de Dieu. Le don de prophétie produisait donc des messages spontanés, inspirés par l'Esprit, intelligibles et transmis oralement à l'Assemblée, permettant d'édifier ou d'encourager le peuple. Le lien très étroit entre l'Esprit et le don de prophétie, 1 Corinthiens 12 à 14, indique que la nature de l'activité prophétique, telle qu'elle est envisagée, est nourrie de la nature du don de prophétie tel qu'il était conçu par les véritables prophètes d'Israël. Le don de prophétie et la révélation sont clairement associés, l'idée de révélation, apocalypsei, étant mentionnée au milieu de la présentation de Paul sur le don de prophétie, 1 Corinthiens 14, versets 6, 26, 29 à 31. 1 Corinthiens 14, verset 6, fait aussi le lien entre la prophétie, la connaissance et l'enseignement. Le don de prophétie est le fruit d'une révélation. Quand elle est verbalisée, la révélation est la base du don de prophétie. Et la révélation, 1 Corinthiens 2, verset 10, comme le don de prophétie, 1 Corinthiens 12, verset 8, sont le fruit de l'action du Saint-Esprit. Un prophète était une personne qui parlait au peuple de Dieu sous l'inspiration de l'Esprit. De plus, il y a certainement un lien entre le don de prophétie et l'idée de mystère, mysterion, Paul semblant indiquer que ceux qui ont des capacités en matière de prophétie et ceux qui comprennent tous les mystères et la connaissance sont en fait les mêmes personnes. Connaître les mystères et avoir la connaissance, même partiellement, fait donc partie du don de prophétie. Ces nuances, le don de prophétie associé au Saint-Esprit, à la révélation, à la connaissance, au mystère, à l'enseignement, mettent l'accent sur la nature eschatologique du don de prophétie du Nouveau Testament qui permet la proclamation divine de l'Évangile et révèle ses implications pour la vie ici-bas. Ces termes confirment que la nature du don de prophétie dans le Nouveau Testament est, en essence, similaire à celle de l'Ancien Testament. Cela signifie aussi que le phénomène prophétique, présenté dans 1 Corinthiens, est lié à des thèmes présents dans les prophéties apocalyptiques, à savoir les mystères, la sagesse, la révélation et la connaissance, dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Le don de prophétie est donc associé au thème très vaste du salut et du plan de Dieu pour l'humanité. Le don de prophétie était un phénomène largement répandu dans les religions de l'Antiquité, et souvent de nature extatique. L'approche de Paul, ainsi que des autres auteurs du Nouveau Testament, était conditionnée par la tradition prophétique biblique. Ainsi, les prophètes du Nouveau Testament étaient associés aux prophètes de l'Ancien Testament. Le contenu et l'objectif des prophéties avaient une dimension morale liée à l'action de Dieu en la personne et l'œuvre de Jésus. il était question de perspectives générales, d'identité chrétienne, de vie intérieure et de mise en pratique de la vérité de l'Évangile en lien avec la vie et le service tant individuel que communautaire. Même s'il s'agissait d'un phénomène de révélation directe, le don de prophétie que décrit Paul dans 1 Corinthiens n'était ni informel ni banal. Il n'était pas non plus impulsif, sans retenue, autoproclamé, individualiste ou subjectif. Ce n'était pas un don de prophétie différent, comme certains le suggèrent, suscité par la révélation de Dieu, mais n'ayant qu'une autorité relative liée à l'emploi de termes humains qui permettaient de formuler cette révélation, autrement dit, le récit de ce que Dieu faisait venir à l'esprit humain. Ainsi, les prophètes du Nouveau Testament parlaient pour Dieu, et leurs paroles ou leurs messages faisaient autorité, même si le peuple n'en percevait pas toujours le sens. Tout élément nouveau dans les prophéties du Nouveau Testament permettait de découvrir le sens plus profond des écrits prophétiques antérieurs et, en tant que réalité eschatologique, ce don était potentiellement accessible à plus de croyants que par le passé. Limite du don de prophétie. Malgré son importance et son lien manifeste avec la tradition prophétique de l'Ancien Testament, Paul affirme clairement que le don de prophétie a des limites. Les messages de prophètes, ils seront abolis, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophètes, mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je raisonnais comme un tout petit. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 12. La connaissance qui est révélée grâce au don de prophétie est au mieux partielle, un faible reflet dans le miroir du trésor inépuisable des réalités divines, à la fois aujourd'hui et dans le futur. Il s'agit d'une énigme, énigmatie. Cette énigme est associée aux limites relatives au fait que nous voyons Dieu au moyen d'un miroir en attendant de le voir directement et clairement, face à face. Dans le cadre d'une prophétie, on ne voit pas la chose elle-même, mais seulement son image au moyen d'un intermédiaire. Une nouvelle orientation est souvent nécessaire pour pouvoir saisir le sens d'une prophétie, comme lorsque, après sa mort et sa résurrection, Jésus expliqua aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs les prophéties concernant le Messie. Luc 24, versets 25, 44, 45. Ainsi, les prophètes eux-mêmes ne savaient pas toujours quel était le sens de leur prophétie. Ils n'étaient pas non plus toujours capables de saisir le sens des déclarations d'un autre prophète. Cependant, cet aspect indirect et énigmatique n'amoindrissait en aucun cas l'authenticité de l'expérience des prophètes ni l'intégrité du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la vérité. En fait, c'était une lampe qui brille dans un lieu obscur. 2 Pierre 1, verset 19. De plus, les prophéties doivent être évaluées et par conséquent triées, c'est-à-dire acceptées ou rejetées. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. 1 Corinthiens 14, verset 29. Le mot traduit par « juge » est « diakrinetosan », qui signifie « évaluer », juger, faire une distinction entre. Ce verbe a différentes significations dans les écrits de Paul, mais dans ce contexte précis, diakrino veut dire faire une distinction entre les différentes paroles prophétiques, et donc entre les prophètes. En utilisant la même terminologie, Paul fait le lien entre le don de prophétie et le don accordé du Saint-Esprit, consistant à faire preuve de discernement concernant les prophéties. Le Saint-Esprit donne à un autre la capacité de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits. 1 Corinthiens 12, verset 10. Ce discernement des esprits est intrinsèquement lié aux prophéties, puisqu'elles doivent être évaluées. Dans un autre contexte où la valeur des prophéties était soit remise en question, soit sous-estimée, Paul plaide en faveur d'une évaluation minutieuse. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les messages de prophètes, examinez tout, retenez ce qui est bien. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Si notre analyse du don de prophétie dans 1 Corinthiens 12 à 14 est exacte, Alors l'évaluation que Paul préconise concerne le discernement entre les véritables prophéties et les fausses prophéties, et par conséquent, les véritables prophètes et les faux prophètes. De quelle source une prétendue manifestation prophétique vient-elle ? Du Saint-Esprit, de l'esprit humain, elle serait alors autosuggérée, ou d'un esprit mauvais ? Paul ne fait pas de recommandation particulière au sujet des faux prophètes, si ce n'est en parlant de façon positive du don de prophétie. Mais les faux prophètes faisaient néanmoins partie du paysage spirituel du 1er siècle, et Paul y fait allusion tacitement en parlant d'évaluation. Des esprits mauvais étaient à l'œuvre dans les congrégations du Nouveau Testament. L'évaluation telle que Paul la concevait concernait vraiment la distinction entre le véritable don de prophétie et le faux don de prophétie, et il ne s'agissait pas d'une sorte d'évaluation différente, d'une sorte de don de prophétie différent. Il n'y avait pas à Corinthe de phénomène relatif à un don de prophétie ordinaire et congrégationaliste, selon lequel il y aurait des éléments exacts et d'autres éléments inexacts dans chaque prophétie qui seraient donc évalués et triés en fonction de leur valeur, ou selon lequel une prophétie serait simplement relatée en termes humains pour rapporter ce que Dieu susciterait à l'esprit. Cette conclusion doit être nuancée par le lien étroit qui existe entre le don de prophétie et la révélation, 1 Corinthiens 14, verset 6. La révélation engendrée par le Saint-Esprit précède la prophétie, et pourtant la révélation ne prend forme que grâce à la prophétie. Elles sont inséparables, simultanées et pourtant consécutives. Le don de prophétie est basé sur la réception d'une révélation. Un prophète ne reçoit peut-être pas une révélation à chaque instant et à chaque occasion, mais il dépend toujours de l'action du Saint-Esprit. Une prophétie authentique inspirée par l'Esprit n'est pas le reflet d'une initiative ou de connaissances humaines. Contrairement au don des langues, qui était manifestement accordé une fois pour toutes et pouvait être utilisé quand on le voulait, les prophètes ne possédaient pas ainsi le don de prophétie dans le sens où ils pouvaient l'employer quand ils le voulaient. Il dépendait sans cesse de la révélation du Saint-Esprit. Comme nous l'avons souligné ci-dessus, cette révélation, bien que partielle et énigmatique, n'amoindrissait en aucune façon l'authenticité totale des prophéties ou l'intégrité du Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité. Une fois encore, il n'est pas question ici d'un don de prophétie congrégationaliste qui produirait des prophéties comportant à la fois des éléments exacts et d'autres éléments inexacts, ou qui pousserait le prophète à partager en des termes humains ce que Dieu ferait venir à son esprit. Si le Saint-Esprit facilite la révélation, alors les prophéties sont authentiques. 1 Corinthiens 12, verset 11. Cependant, même lorsqu'une prophétie était authentique, il s'avérait nécessaire de l'évaluer, non parce qu'elle comportait des inexactitudes, mais en raison de la présence de faux prophètes. Comme nous l'avons déjà noté, les faux prophètes étaient une réalité dans la société de l'époque et ils étaient également présents dans l'Église. Dans la communauté de Corinthe, certaines personnes se considéraient manifestement comme des prophètes ou des êtres spirituels. 1 Corinthiens 14, verset 37. Cela ne signifiait pas qu'il s'agissait de véritables prophètes. Le contexte semble indiquer que ces soi-disant prophètes parlaient de leur propre initiative et pour des motifs égoïstes, plutôt que pour transmettre une révélation accordée par le Saint-Esprit. Le fait qu'il y ait dans une congrégation des prophètes agités, en compétition les uns avec les autres, faisant tout leur possible pour attirer l'attention, ainsi que des membres orgueilleux refusant d'écouter ce que les autres ont à dire, ne signifie pas qu'un processus de révélation prophétique authentique soit à l'œuvre ou que Dieu y soit présent. Verset 25. Les prophètes authentiques du Nouveau Testament faisaient autorité, mais ils étaient malgré tout soumis à des critères objectifs permettant de confirmer leur authenticité et leur autorité, à savoir l'Ancien Testament et les écrits des apôtres. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou bien est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un se considère comme un prophète ou un être spirituel, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est qu'il n'est pas reconnu. Versets 36 à 38. Deux points méritent d'être mentionnés. Tout d'abord, les prophètes du Nouveau Testament agissaient en fonction de la place qui était la leur dans l'histoire de la parole de Dieu, l'Évangile du Christ. l'Ancien Testament ainsi que les écrits ultérieurs des apôtres, dévoilant le mystère de l'Évangile annoncé précédemment, étaient donc des critères bibliques et objectifs. Les paroles révélées et inspirées étaient évaluées dans le cadre plus large d'une révélation historique cohérente et faisant autorité. Le passé servait à évaluer ce qui venait plus tard. L'horizon herméneutique est exclusivement relatif au canon biblique. Deuxièmement, dans une certaine mesure, les prophètes, du moins à Corinthe, œuvraient dans le contexte de la supervision des apôtres. Paul pensa-t-il à cela en écrivant que Dieu avait placé dans l'Église premièrement des apôtres et deuxièmement des prophètes ? 1 Corinthiens 12, verset 28. Y avait-il une forme d'obligation mutuelle entre les apôtres et les prophètes, non pour savoir lesquels étaient les plus importants ou lesquels faisaient davantage autorité, mais parce que les apôtres avaient une forme de précédence sur les prophètes dans la mesure où ils avaient fondé et établi l'Église et où ils confirmaient les critères bibliques, notamment dans leurs écrits, permettant d'évaluer la véracité et l'autorité des prophètes. Le texte n'est pas clair. Cependant, nous savons que même les véritables prophètes devaient être évalués. Nous savons également que Paul remit en question les prophètes de Corinthe et définit des critères concernant leur rôle dans le domaine de l'adoration. Les propos de Paul concernant les prophètes ne signifient pas que pour lui il y avait différentes sortes de dons de prophétie avec différents niveaux d'autorité. Si le Saint-Esprit inspirait les prophètes et les apôtres, alors il n'y avait pas de hiérarchie ni de degré d'inspiration et de révélation. Cependant, il y avait peut-être une hiérarchie d'ordre pratique, à savoir que les apôtres et certains prophètes veillaient sur l'Église et le mouvement missionnaire en général, alors que d'autres prophètes s'attachaient à nourrir l'Église sur un plan plus régional. S'il y avait en effet une diversité des rôles, cela ne modifierait en rien la hiérarchie herméneutique des sources inspirées antérieures des Écritures hébraïques auxquelles les apôtres eux-mêmes faisaient référence. Cela ne modifierait pas non plus la façon dont les apôtres eux-mêmes s'investissaient alors dans la constitution du Nouveau Testament. Le fait qu'un apôtre pouvait contester un prophète est peut-être la raison pour laquelle, dans sa seconde épître aux Corinthiens, Paul évoque des apôtres de mensonge, des ouvriers trompeurs, qui se transforment en apôtres du Christ. 2 Corinthiens 11, verset 13, voir Apocalypse 2, verset 2. Être un prophète ne suffisait pas si Paul gardait à l'esprit la recommandation du Christ. 1 Corinthiens 14, verset 37. Une fois encore, le texte n'est pas clair concernant une limite possible du don de prophétie. Enfin, même si le don de prophétie est potentiellement accessible à tous parce que tous les croyants reçoivent le Saint-Esprit, seuls quelques-uns seront appelés à l'exercer. C'est la nature des dons spirituels. Tout le monde ne reçoit pas le don de prophétie. 1 Corinthiens 12, verset 29. Que signifie alors la phrase « Vous pouvez tous parler en prophète, un par un » ? Le mot « tous » ne signifie pas que tout le monde ait ce don. Ce verset fait plutôt référence à un ceux qui ont ce don de prophétie et à la façon dont ils sont appelés à se conduire dans le cadre de la communauté de foi, à savoir vis-à-vis de leurs semblables exerçant la fonction d'apôtre, par exemple. Ou 2, une situation hypothétique dans la mesure où Paul montre simplement que, même si tout le monde avait ce don, et il invite tous les croyants à y aspirer, tout doit être fait de façon ordonnée et pour l'édification du corps du Christ. Le fait que certains pensaient à tort avoir le don de prophétie montre que tout le monde ne le possédait pas, même si certains pensaient l'avoir. Voir 1 Corinthiens 14, versets 36 à 38. Le don de prophétie et le reste eschatologique. Après avoir étudié ce qu'enseigne 1 Corinthiens 14 sur le don de prophétie dans l'Église du 1er siècle, les lecteurs adventistes se demandent peut-être quel est le lien entre l'interprétation de ce passage et l'approche adventiste du don de prophétie en tant que phénomène eschatologique dans l'Église du reste. Il ne suffit pas de dire que le processus prophétique décrit par Paul était en harmonie avec le don de prophétie de l'Ancien Testament. Il ne suffit pas de préciser que le don de prophétie chez les croyants de Corinthe n'était pas de nature différente. Il ne suffit pas d'affirmer que l'approche biblique du don de prophétie et du rôle des prophètes ne permet pas de dire qu'il y aurait différents degrés dans l'inspiration et l'autorité prophétique. Une question se pose cependant. Comment envisager l'exercice du don de prophétie dans l'Église aujourd'hui ? Le don de prophétie était-il uniquement exercé dans le contexte de la création de l'Église du 1er siècle par les apôtres, ou est-il valable pour l'Église de tout temps ? Et l'exercice du don de prophétie consiste-t-il à répondre aux besoins du peuple de Dieu à la fin des temps sur le plan des paradigmes et de l'interprétation ?
Paul n'aborde pas spécifiquement ces questions dans la première épître aux Corinthiens, mais il fait plusieurs observations auxquelles les adventistes sont invités à réfléchir aujourd'hui. Tout d'abord, en raison de leur nature, les dons spirituels resteront d'actualité jusqu'au retour du Christ. Il ne vous manque aucun don de la grâce en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 7. Cela comprend les dons relatifs à la parole et à la connaissance, verset 5, autrement dit, le don de prophétie. De plus, Paul affirme que le don de prophétie cessera d'exister quand le Christ reviendra, ce qui sous-entend qu'il existera donc, du moins potentiellement, dans l'Église jusqu'à ce jour-là. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 13. Le don de prophétie n'était pas limité aux apôtres et ne devait pas être exercé uniquement à cette époque. De la même façon, le fait qu'il continue à exister ne doit pas remettre en question l'idée que le canon désormais fermé des Écritures se suffise à lui-même. On observe ce phénomène dans l'Apocalypse de Jean, où le reste eschatologique de Dieu porte le témoignage de Jésus, Apocalypse 12, verset 17, qui est défini comme l'esprit de la prophétie. Conformément à ce que dit Paul, l'Apocalypse décrit un ensemble de prophètes, ce qui implique que la révélation suscitée par l'Esprit se poursuivra jusqu'à l'eschaton. Deuxièmement, le don de prophétie est un phénomène communautaire. La description métaphorique de l'Église en tant que corps du Christ est liée au don spirituel, y compris au don de prophétie. De plus, elle indique que ce corps est le cadre où le don de prophétie se manifeste de la façon la plus significative. Ce contexte, cependant, ne doit pas être vu comme étant uniquement local, congrégationaliste ou centré sur l'adoration. Au 1er siècle, l'activité prophétique était exercée par les apôtres au sens large. Ils prêchaient, enseignaient et s'impliquaient dans l'organisation de l'Église. Ces personnes avaient des dons qui leur permettaient d'exercer des fonctions de responsables et de faire autorité grâce à leur mise en pratique de l'Écriture. De la même façon, le reste eschatologique comprend une communauté au sein de laquelle l'esprit de prophétie se manifeste. Ce phénomène prévu pour la fin des temps permet de guider le peuple de Dieu, de le nourrir et de l'inciter à se tourner vers la Bible dans le contexte de l'Évangile éternel. Apocalypse 14, verset 6. Troisièmement, le phénomène prophétique mentionné dans 1 Corinthiens est le reflet de thèmes relatifs aux conflits cosmiques qui sont présents dans les prophéties apocalyptiques, les mystères, la sagesse, la révélation et la connaissance, voire les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Pour Paul, le contenu et l'objectif des prophéties ont une dimension morale liée à l'action de Dieu en la personne et l'œuvre de Jésus. Il est question de perspective générale, d'identité chrétienne, de vie intérieure et de mise en pratique de la vérité de l'Évangile en lien avec la vie et le service tant individuel que communautaire. Les prophéties concernent l'œuvre paradoxale du Christ sur la croix, la résurrection, le règne éternel de Dieu, la sagesse apocalyptique et les réalités, ainsi que les événements de la fin des temps. Ces mêmes réalités pauliniennes sont exprimées dans un contexte apocalyptique et prophétique de la vision de l'Apocalypse concernant le reste, Apocalypse 12, verset 17, où le témoignage de Jésus, / l'esprit de la prophétie, Apocalypse 19, verset 10, a une dimension mondiale. Par le témoignage de Jésus, le don de prophétie permet de définir l'identité et la mission du reste grâce à un message et à une approche christocentrique. Apocalypse 12, verset 17, 14, verset 6 à 13, voire Apocalypse 10, verset 11. Il est lié à la vie intérieure et au caractère, et permet de mettre en application l'Évangile éternel dans la vie personnelle et celle de la communauté. Le témoignage de Jésus est au cœur du don de prophétie. Il révèle la théodicée de Dieu qui gère la réalité du mal en la personne et l'œuvre de Jésus dans le cadre du conflit cosmique. Il englobe l'Évangile éternel,
Apocalypse 14, verset 6. Le lien entre le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie, Apocalypse 19, verset 10, place à la fois le témoignage de Jésus et l'évangile éternel dans un contexte prophétique et apocalyptique caractérisé par l'urgence. Ainsi, l'esprit de la prophétie définit un rôle essentiel d'interprétation pour le peuple de Dieu de la fin des temps, similaire à celui des prophètes du premier siècle. Cela est cohérent avec l'approche paulinienne du don de prophétie que nous avons vu dans 1 Corinthiens. Quatrièmement, le don de prophétie en tant que phénomène communautaire est le signe indéniable de la présence et de la bénédiction de Dieu au sein de cette communauté. 1 Corinthiens 14, verset 22. L'activité prophétique montre que Dieu est présent et actif, quelque chose qu'une personne extérieure pourrait constater, versets 24 et 25. De la même façon, l'existence du don de prophétie n'est pas une caractéristique abstraite du reste eschatologique. Le fait qu'il existe est le signe de la présence personnelle de Dieu et du Saint-Esprit qui guide le peuple de Dieu et lui accorde des bénédictions liées à l'expression de la vérité dans le cadre du conflit cosmique. Tout cela est aussi important pour l'identité, le message et la mission de l'Église de la fin des temps que cela l'était pour celle du premier siècle. Enfin, tous les prophètes du premier siècle agissaient sous l'autorité de la tradition prophétique biblique. Il n'y avait pas d'autorité prophétique indépendante dans l'Église du premier siècle, ou si cela semblait être le cas, elle n'était pas authentique. Il n'y avait pas non plus de hiérarchie prophétique en ce qui concerne un degré d'inspiration et de révélation d'un côté ou d'autorité prophétique de l'autre. Bien que certaines personnes considèrent qu'à la fin du premier siècle, les prophètes supplantèrent les apôtres, l'Apocalypse place clairement l'esprit de la prophétie dans le cadre de la tradition historique prophétique et apostolique qui forme le contexte historique, théologique et éthique de son existence, l'esprit de la prophétie, de sa véracité et de son autorité. Ce faisant, le dernier livre de l'Écriture confirme que l'esprit de la prophétie joue un rôle essentiel d'interprétation pour le peuple de Dieu de la fin des temps, similaire à celui des prophètes du premier siècle, comme en témoigne la première épître de Paul aux Corinthiens. Le témoignage biblique concernant le phénomène prophétique, dans 1 Corinthiens 12 à 14, est cohérent avec celui du livre de l'Apocalypse. Conclusion. Les nombreuses références aux prophètes et aux dons de prophétie dans le Nouveau Testament indiquent que le phénomène prophétique était à l'œuvre au sein de l'Église et dans le cadre de sa mission. Cette activité prophétique s'exerçait essentiellement dans le cadre de l'ecclésiologie et de l'action des apôtres qui prêchaient, enseignaient et s'investissaient dans l'organisation de l'Église. Le don de prophétie est le plus mentionné de tous les dons du Saint-Esprit évoqués dans les écrits de Paul, ce qui souligne à quel point il était présent dans les églises pauliniennes. C'est notamment le cas dans 1 Corinthiens 12 à 14, où Paul s'efforce de faire le point sur l'emploi manifestement non contrôlé du don des langues dans l'église de Corinthe. Paul souligne la priorité du don de prophétie sur celui des langues quand elles ne sont pas interprétées, 1 Corinthiens 14, verset 5, en expliquant que les dons liés à la parole, et donc le don de prophétie, ont pour but d'édifier, d'encourager et de consoler, verset 3. Le don de prophétie en lui-même n'était pas un problème à Corinthe, et c'est la raison pour laquelle Paul le cite afin de justifier sa position. Les croyants sont encouragés à aspirer aux dons les meilleurs, et donc aux dons de prophétie, même si le don des langues ne doit pas être écarté, versets 1 et 39. Cependant, tous n'ont pas le don de prophétie, 1 Corinthiens 12, verset 29. 1 Corinthiens 12 à 14 propose un aperçu complet du processus prophétique, comprenant les prophètes, les prophéties et le don de prophétie, et mentionne le fait que l'activité consistant à prophétiser semble prédominer sur le don lui-même. L'expérience de la révélation est un phénomène communautaire et le signe indéniable de la présence et des bénédictions de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 22. Le renouveau moral, qui est rendu possible grâce au don de prophétie, met en évidence la véritable nature du don de prophétie exercé dans l'Église. Le lien tout particulier entre le Saint-Esprit et le don de prophétie indique que l'activité prophétique à laquelle Paul pense est clairement définie par la nature du don de prophétie qui était exercé par les véritables prophètes d'Israël. Les termes associés au don de prophétie, comme le Saint-Esprit, la révélation, la connaissance, les mystères et l'enseignement, évoquent des thèmes présents dans les prophéties apocalyptiques où la vision du monde, le salut et l'action souveraine de Dieu dans l'histoire du salut sont évoqués. Ainsi, le don de prophétie que Paul décrit dans 1 Corinthiens n'est pas un don nouveau ou différent, et son autorité est la même que dans l'Ancien Testament. En dépit de son importance et de son lien évident avec la tradition prophétique de l'Ancien Testament, le don de prophétie avait des limites. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 12. En tant que manifestation de la nature eschatologique de l'Église, entre deux périodes, le don de prophétie est par nature à la fois temporel et partiel. Et parce que les faux prophètes faisaient partie du paysage spirituel du 1er siècle, les paroles prophétiques devaient être évaluées et le tri devait être fait entre les faux prophètes et leurs dons de prophétie et les véritables prophètes. Ce n'était pas une évaluation différente d'un don de prophétie différent. Il n'existait pas de phénomène prophétique congrégationaliste propre à Corinthe. Le lien étroit qui existe entre la révélation et le don de prophétie, 1 Corinthiens 14, verset 6, montre que le don de prophétie est authentique et que le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. Même si les prophètes œuvraient dans le contexte prophétique de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de hiérarchie ou de degré d'inspiration et de révélation, ni de degré dans le domaine de l'autorité prophétique. Les explications proposées par Paul au sujet du don de prophétie dans le cadre de sa réflexion sur les dérives du don des langues lorsqu'elles ne sont pas interprétées, 1 Corinthiens 12 à 14, comprennent une dimension rhétorique semblant indiquer que ce n'est pas le fait de prophétiser qui était un problème à Corinthe, mais les faux prophètes. L'approche adventiste du don de prophétie en tant que phénomène eschatologique de l'Église, du reste, fait écho à plusieurs déclarations de Paul concernant le don de prophétie dans 1 Corinthiens 14. Tout d'abord, le don de prophétie existera jusqu'au retour du Christ. Cela ne remet en aucun cas en question le fait que le canon biblique se suffise à lui-même. Deuxièmement, le don de prophétie est un phénomène communautaire qui n'est pas exclusivement local, congrégationaliste ou centré sur l'adoration. Les prophètes non canoniques exercèrent une influence spirituelle et morale significative lors de la création de l'Église au sens large. Troisièmement, le véritable don de prophétie décrit par Paul dans 1 Corinthiens est le reflet des thèmes relatifs aux conflits cosmiques qui sont très présents dans les prophéties apocalyptiques. Quatrièmement, la présence du don de prophétie au sein de l'Église est indéniablement le signe de la présence et des bénédictions de Dieu au sein d'une communauté de foi. 1 Corinthiens 14, versets 22, 24, 25. Cela est essentiel pour définir l'identité, le message et la mission de l'Église, à la fois au 1er siècle et pour la dernière génération de l'histoire de l'humanité. Enfin, tous les prophètes agissent sous la houlette des précédents bibliques qui constituent le cadre historique, théologique et éthique permettant de confirmer leur authenticité, la véracité de leurs propos et leur autorité, versets 37 et 38. Il n'existe pas d'autorité prophétique indépendante, ni de hiérarchie ou de degré dans l'inspiration, la révélation ou l'autorité. Le don de prophétie ayant pour but de révéler les secrets du cœur humain, de convaincre du péché et de justifier à la fois Dieu et la communauté chrétienne, il s'agit d'un don spirituel merveilleux qui édifie, qui exhorte, qui réconforte et qui est source d'espérance. Verset 3. Il est le reflet de la dimension eschatologique de l'Église, entre deux périodes. Il ne cessera que lorsque notre Sauveur reviendra.